petit bond de quelques années, on arrive au XIIe siècle et je vous invite à vous diriger sur le panneau 21, le dernier panneau de la salle, où vous verrez donc une carte de l'Europe qui nous présente les différentes implantations du catharisme à cette époque. Alors déjà, la première chose, c'est que sur cette carte, on s'aperçoit que le catharisme, eh bien, ce n'est pas seulement le sud de la France, ce n'est pas seulement l'Occitanie, comme on l'a cru pendant très longtemps. Rien que pour la France, on avait quand même oublié que le catharisme était présent dans tout le nord et le centre, notamment en Bourgogne et en Champagne. Mais il y avait également des foyers cathares, des églises cathares organisées sur les Flandres et la Rhénanie, donc en gros une partie de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne d'aujourd'hui. Des foyers également très importants dans tout le nord de l'Italie, en Sicile et en Bosnie. Et enfin, beaucoup plus donc en Orient, sur toute la partie Macédoine, Bulgarie, autour de Constantinople, donc plus ou moins la Turquie d'aujourd'hui. Donc vraiment une implantation qui a été très vaste, on peut dire en Europe au sens large du terme. Alors sachant bien entendu que cette carte est figée au moment où elle a été faite en l'état des connaissances et que les recherches continue toujours aujourd'hui, hein. Donc il n'est pas impossible non plus que dans quelques années on puisse faire figurer d'autres informations sur cette carte. Alors des implantations donc nombreuses mais très différentes, différentes par leur durée, différentes par le succès qu'elles ont pu avoir et puis également différentes par la façon dont les choses se sont passées puisque malheureusement ça se passe très mal dans certaines régions comme chez nous en Occitanie puisqu'il y a la croisade et l'inquisition et ça se passe presque bien, on va dire, dans d'autres régions comme pour la Bulgarie ou Constantinople, où dans ces régions-là, il n'y aura pratiquement pas de persécution. Et donc dans ces régions-là, ceux qu'on a appelés là-bas Bogomil et non pas cathares ont pu vivre à peu près en paix jusqu'au XVe siècle, soit un siècle de plus que ce qui va se passer en Occitanie. Et c'est seulement l'arrivée donc des Turcs au XVe siècle qui les fera disparaître. Donc des implantations différentes, mais aussi des appellations différentes. Et donc pour conclure sur ce deuxième point, avant d'entrer dans les églises cathares occitanes, il est important, je pense, de préciser quelques informations sur ce mot cathare qui est tellement à la mode aujourd'hui. Vous savez que quand on se balade dans le département voisin de l'Aude, on trouve à peu près tout cathare. Ça va de l'eau en passant par le pain, la viande, les pompes funèbres, les voitures, etc. Tout est cathare. Donc on est noyé dans cette masse cathare sans savoir ce que ce mot pouvait signifier ni la façon dont il a pu être utilisé au Moyen-Âge. Alors le premier point déjà, c'est que ce mot n'était pas du tout à la mode au Moyen-Âge, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est un mot qui a été très très peu utilisé, qui n'a jamais été utilisé, et ça c'est peut-être le point fondamental, jamais été utilisé par les cathares, utilisé uniquement par les persécuteurs, par les croisés, par les gens venus du nord de la France pour se battre, par les inquisiteurs, et qui en plus a été utilisé essentiellement dans le nord de la France et sur la Rhénanie, sur l'Allemagne, et pas chez nous en Occitanie. Ce qui est assez amusant quand on voit l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. Donc ce mot cathare, en fait, a vraisemblablement été inventé par un moine allemand, donc en Rhénanie, hein. Ce moine s'est amusé à faire un jeu de mots à partir d'un autre mot allemand qui signifiait le chat. Le chat au Moyen-Âge étant considéré comme un animal diabolique, un animal qui a mauvaise réputation, dont on se méfie. Donc appeler ces gens cathares, c'était en fait dire que ces gens-là étaient les animaux du diable, les agents du diable, les adorateurs du diable. On disait que les cathares adoraient la queue du diable. C'était donc un mot très négatif, très péjoratif, presque une insulte. Et qui donc n'était utilisé que par les persécuteurs et non pas par les cathares eux-mêmes, bien entendu. Alors ensuite, il y a eu d'autres appellations. On a par exemple, on les a appelés les tisserands, on les a appelés les pifles ou les patarins sur l'Italie, on les a appelés les bogomils, donc sur la Bulgarie. Et toutes ces appellations, encore une fois, sont les appellations utilisées par les persécuteurs. Les cathares utilisaient d'autres termes dont vous avez certainement entendu parler, tout simplement les bons hommes et les bonnes femmes, les bons croyants et les bonnes croyantes, les bons chrétiens et les bonnes chrétiennes, ou les chrétiens, tout simplement, puisqu'ils se considéraient comme étant les vrais chrétiens par rapport, bien entendu, à l'Église officielle, l'Église catholique romaine. Voilà, et donc il est important de garder en mémoire ce que pouvait signifier ce mot à l'époque, comment il était utilisé, sachant qu'on va continuer quand même, pour parler des cathares, à utiliser ce mot-là puisqu'il est pratique, il nous permet vraiment de les caractériser, mais en gardant quand même toujours en mémoire donc, le sens qu'il pouvait receler donc, au Moyen-Âge.